Juvamine.
Il est 8h30 à Paris, à l'écoute d'RFI, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Et la une de ce journal, ce sombre constat sur la RDC hier au Conseil de droits de l'homme de l'ONU. Le nombre de déplacés internes augmente dans le pays alors que les violences continuent et que la question des droits de l'homme connaît un recul. Paul Biya poursuit son séjour privé en Europe. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement camerounais dans un communiqué, contraint de réagir hier aux rumeurs qui vont bon train sur l'état de santé du chef de l'État âgé de 91 ans. Deux dossiers politiques dans cette édition. Les élections générales au Mozambique, tout d'abord aujourd'hui, 17 millions d'électeurs appelés aux urnes pour 3 scrutins. Et puis l'opposition des Comores qui accorde ses violons. Une vingtaine de partis se sont réunis hier à Moroni pour décider de faire front commun. Un procès en France ensuite, celui de Richard Onana, l'auteur franco-camerounais jugé aux côtés de son éditeur pour contestation de l'existence d'un crime de génocide. Et notre dossier, le rôle important que les femmes doivent jouer dans la société centrafricaine, dossier sur le combat de la FAFECA, la Fédération des associations des femmes centrafricaines. Cette année en RDC, 940 000 personnes supplémentaires ont dû fuir. C'est l'ONU qui tient les tristes comptes. Cela fait donc désormais plus de 6 400 000 déplacés internes, un chiffre inquiétant qui illustre la situation humanitaire. À l'heure où les violences continuent par ailleurs, sombre bilan dressé hier à Genève au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Patient Legodi, la chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, y a notamment dénoncé les attaques des rebelles du M23 dans l'Est.
Une fois de plus, Bintou Keïta a pointé du doigt le M23, qu'elle accuse d'avoir étendu son contrôle vers Lubero dans sa quête des territoires en RDC. Elle a en outre reproché au mouvement soutenu par Kigali d'avoir attaqué des hôpitaux et des sites déplacés lors de la prise de Kanyabayonga fin juin. De son côté, Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a lancé un appel pressant aux pays exerçant une influence sur les groupes armés, leur demandant de faire tout leur possible pour mettre fin aux affrontements. Tout rôle joué par le Rwanda dans le soutien au M23 au Nord Kivu et par tout autre pays soutenant les groupes armés en RDC doit cesser, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Volker Turk a aussi évoqué la situation des droits de l'homme dans les centres de détention des services de renseignement en RDC. Il a dénoncé le fait que, dans certains de ces lieux, plusieurs détenus subissent des tortures et d'autres mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, et sont détenus dans des conditions inhumaines, sans accès à leur famille ou à leurs avocats. Patient Legodi, Kinshasa, RFI.
La RDC qui enregistre donc un recul général de la situation des droits de l'homme et qui brigue dans le même temps un siège au Conseil onusien des droits de l'homme à Genève justement. Sujet qui fait réagir, vous en parlerez avec Juan Gomez et son équipe ce matin dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous à 8h10 en temps universel, ils vous attendent. La RDC dans le chapitre judiciaire également avec la condamnation de 3 juges de la province de Olomami dans le sud. 3 hauts magistrats condamnés pour des peines allant de 5 à 7 ans de prison, reconnus coupables de corruption après la diffusion le mois dernier d'un audio dans lequel on les entendait se disputer une somme de 35 000 dollars américains obtenue d'un justiciable. Face au bruit qui court, la réaction du gouvernement camerounais à présent. Il a démenti hier les informations faisant état de la mort du président Paul Biya. En raison de plusieurs absences remarquées lors d'événements internationaux récents, l'état de santé du chef de l'État âgé de 91 ans alimente beaucoup de spéculations. Un média basé aux États-Unis affirmait même hier matin que Paul Biya est décédé. Mais en face, Sidi Ansané, le gouvernement camerounais affirme donc que c'est faux et qu'il s'agit de simples rumeurs.
Après des semaines de silence, les autorités camerounaises ont finalement décidé de mettre fin aux spéculations sur la mort de Paul Biya. Par communiqué, le porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, parle de fantasmes et de pure imagination et invite les Camerounais à ne point se laisser distraire par des manœuvres de déstabilisation orchestrées par des individus pernicieux. Le ministre du Travail, Grégoire Owona, estime que les auteurs de la rumeur, je cite, « doivent payer le prix fort ».
La justice, le droit, la législation, la législation prévoit des sanctions contre ceux qui diffusent des fausses nouvelles, ceux qui diffament, ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public. Vous savez vous-même que ça, c'est le genre de nouvelles qui peuvent créer n'importe quel désordre à l'ordre public. C'est ça que j'appelle payer le prix fort.
Pour sa part, le cabinet de la présidence condamne fermement les rumeurs et souligne l'excellent état de santé du chef de l'État qui, je cite, « travaille et va qu'à ses occupations à Genève ». Bientôt âgé de 92 ans, la santé de Paul Biya interroge suite à ses absences remarquées à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de la francophonie où il était pourtant annoncé. Sa dernière apparition officielle remonte à début septembre au sommet Chine-Afrique de Pékin. Dans sa déclaration hier, le gouvernement a annoncé que le dirigeant camerounais rejoindra le pays dans les tout prochains jours.
Les explications de Sidi Yansané. 17 millions de Mozambicains appelés aux urnes. Élection générale aujourd'hui synonyme de 3 scrutins. Il faut élire les gouverneurs de province, les parlementaires et le chef de l'État. Une présidentielle pour laquelle 4 candidats sont engagés. 3 opposants face à Daniel Chapo du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. L'opposition qui a mis en garde contre toute tentative de fraude, Guillaume Thibault.
Certains prédisent un scrutin sous tension. Le pouvoir répliqué indique que la longue campagne électorale, 45 jours, s'est déroulée dans le calme. Un premier succès, estime la police. Pour sécuriser les votes, 12 000 observateurs nationaux et internationaux sont déployés. Un gage de transparence pour les autorités, accusées par l'opposition, notamment par la RENAMO, parti issu de l'ex-rébellion, de clientélisme, de corruption et d'avoir manipulé les derniers scrutins. L'un des enjeux de cette journée de vote, c'est le déroulement et l'organisation du processus pour les 1,4 million d'électeurs de la province du Cabo Delgado, région de l'extrême nord du pays où le gouvernement a investi énormément pour développer un projet de gaz naturel. Un secteur clé pour l'économie, mais à l'arrêt, paralysé même depuis 2017, depuis l'intensification des attaques des combattants Shebab affiliés à l'État islamique. Si le président sortant Felipe Nyusi, qui va donc quitter le pouvoir après deux mandats, a indiqué que la lutte a été couronnée de succès, les observateurs régionaux s'inquiètent du départ en juillet dernier de la mission militaire d'Afrique australe qui a entraîné un vide sécuritaire dans la province.
Guillaume Thibault et ses élections générales aujourd'hui au Mozambique, les forces en présence, les enjeux. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver notre article complet sur RFI.fr. La politique aux Comores à présent, avec l'opposition qui se met en ordre de marche. Une vingtaine de partis politiques se sont réunis hier en vue de coordonner leurs efforts face au président Assoumani et à sa gestion de l'État. 2 commissions ont été mises en place pour faire front commun. Initiative qui intervient alors que le président, blessé au couteau le mois dernier, n'a toujours pas présenté de bulletin de santé officiel. À Moroni, les précisions d'Abdallah Mzembaba.
Le leader du parti Orange dénonce l'absence du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies et au sommet de la francophonie. Daoudou Abdallah Mohamed est aussi revenu sur la réunion du jour et l'état de santé du chef de l'État.
L'objectif de cette réunion est d'organiser l'opposition, l'unifier et mutualiser les forces et les actions à mener afin de réconcilier les pays et faire face aux multiples crises socio-économiques qui secouent notre pays. Nous assistons à un empêchement qui ne dit pas son nom. Dans ces conditions, il est de notre devoir d'utiliser tous les moyens légaux possibles et va conduire à la mise en place d'une transition inclusive ou exclusive.
Pour Mohamed Jafar Abbas, coordinateur du collectif des candidats à la présidentielle de janvier dernier, cette réunion est une démonstration d'unité de l'opposition.
Ceux qui ne croyaient pas qu'il était possible que l'opposition se unisse dans sa globalité, eh bien, aujourd'hui on a montré l'exemple que si ça peut se réunir demain jeudi, une assemblée générale va donc entériner les décisions finales et en même temps il y aura aussi une commission chargée de s'occuper de la structuration de cette assemblée qui réunit tous les partis politiques.
Dans quelques mois sont prévues les élections législatives et communales, des échéances qui, pour le moment, ne font pas partie des objectifs prioritaires de ce collectif de l'opposition. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
Un dossier judiciaire en France avec le procès de Charles Onana qui s'est poursuivi hier devant le tribunal correctionnel de Paris. L'auteur franco-camerounais jugé aux côtés de son éditeur pour contestation de l'existence d'un crime de génocide, à savoir en l'occurrence le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Charles Onana est poursuivi en raison de propos tenus dans son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » paru en 2019. Avec des positions qui ont poussé plusieurs associations à porter plainte, Florence Maurice.
Au cœur de ce procès, une vingtaine d'extraits du livre de Charles Onana, jugé suffisamment problématique par les juges d'instruction pour justifier un procès. Dans ce livre, l'auteur franco-camerounais place entre guillemets le terme de génocide qu'il qualifie de dogme ou d'idéologie. Il accuse le FPR de Paul Kagame d'avoir en 1994 fait passer, je cite, sa guerre de conquête du pouvoir pour un génocide des Tutsis, fin de citation. Il avance enfin que la planification du génocide des Tutsis par le pouvoir Hutu serait une thèse conspirationniste, quand bien même cette planification a été plusieurs fois reconnue en justice. Pour maître Sabrina Goldman, avocate de la LICRA, l'une des parties civiles, ses propos relèvent d'un négationnisme assumé. Pour qu'il y ait génocide, il faut un plan concerté. Ce qu'il récuse, explique l'avocate. Charles Onana s'en défend. Face au juge lundi, il a expliqué avoir fait dans ce livre un travail de politologue. Il dénonce un procès d'intention et assure n'avoir jamais contesté l'existence du crime de génocide.
Les explications de Florence Maurice. Le développement de la Centrafrique ne se fera pas sans les femmes. Voilà le leitmotiv de la FAFECA, la Fédération des associations des femmes centrafricaines. Elle a pour but de promouvoir et soutenir les initiatives féminines dans tous les domaines, commerce, entrepreneuriat, agriculture. Et parmi les projets soutenus concrètement, on peut notamment citer la transformation des mangues en confiture, une activité qui permet aujourd'hui à plusieurs femmes de gagner dignement leur vie. C'est notre dossier ce matin, il est signé Rolf-Steph Domialeux.
La vitrille éplucher les mangues, c'est le quotidien de Valentine, membre de la FAFECA.
C'est une richesse qu'on peut avoir tout dedans. Parce que dans la mangue, on peut avoir la confiture, on peut sécher la mangue, on peut faire le vin de mangue, l'alcool de mangue, gel de mangue.
Les mangues sont coupées en petits morceaux pour faciliter le mixage dans les machines.
Quand on met dans les bocals, on ferme bien, on met l'eau au feu et on laisse bouillir jusqu'à 15 à 20 minutes. Après cela, on laisse refroidir et on met les étiquettes dessus.
Une quarantaine de femmes sont aujourd'hui formées dans ce domaine grâce à l'initiative de la Fédération des associations des femmes centrafricaines. Bachir Nyangso est coach en entrepreneuriat.
L'objectif global, c'est d'arriver à accroître les connaissances de ces 40 femmes-là autour de la question de l'agriculture, de l'élevage, pour pouvoir permettre à ces femmes-là d'augmenter leurs revenus et également de renforcer leurs connaissances entrepreneuriales.
Ces confitures sont commercialisées partout en République centrafricaine, selon Valentine.
Ça nous permet de gagner notre vie, c'est notre activité génératrice de revenus. Ça nous permet de gérer notre foyer, aider aussi au survie de notre famille.
La FAFECA offre aux femmes centrafricaines des formations socio-professionnelles, organise des foires agricoles et des débats pour donner la chance à toutes les femmes de s'épanouir. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Et au-delà le simple fait de gagner dignement leur vie, ces femmes centrafricaines veulent donc changer le récit qui les entoure. Longtemps considérées à tort comme le sexe faible, elles ont pourtant un grand rôle à jouer dans le développement socio-économique de leur pays. C'est ce que nous explique ce matin sur RFI Portia Deya Abazen, la présidente de la FAFECA.
Nous fournissons un mentorat spécialisé. Cela permet aux femmes de développer leurs compétences entrepreneuriales, de créer et gérer des entreprises florissantes et surtout de devenir économiquement indépendantes. Nous accueillons au siège de la FAFECA avec plaisir toutes les associations et les coopératives dirigées par des femmes, de manière à créer une inclusion totale, un réseau solide et diversifié de femmes engagées dans l'entrepreneuriat.
Portia Deya Abazen, pour refermer notre dossier en Centrafrique, il était signé de notre correspondant Rolf-Steph Domialeux. Allez, avant de vous laisser poursuivre votre matinale, un mot également sur cette alerte sanitaire. Le Rwanda qui enregistre une augmentation des contaminations au virus de Marburg. La maladie liée au virus a fait au moins 12 morts dans le pays et la situation retient l'attention des États-Unis. Washington conseille en effet à ses ressortissants d'éviter le Rwanda. Il n'y aura donc pas de voyage en Angola en fin de semaine prochaine pour le président américain Joe Biden. Il devait s'y rendre après l'Allemagne. Mais la Maison-Blanche fait savoir qu'il renonce pour l'instant à ce déplacement au vu de la trajectoire et de la puissance prévue pour l'ouragan Milton aux États-Unis. Un ouragan qui pourrait être la pire tempête en Floride en un siècle selon Joe Biden. Il reporte donc son voyage en Allemagne et en Angola à une date encore inconnue pour le moment. RFI, restez à l'écoute. Merci d'être là chaque matin. Ça nous fait toujours plaisir évidemment. Et vous retrouvez pour la suite de votre matinale Nathalie Amard.